Et le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants aujourd'hui dans toute la France pour les salaires et la justice fiscale. La CGT a réussi à séduire une partie des gilets jaunes. Le reportage d'Annabelle Grelier dans le cortège parisien. L'Assemblée adopte largement la loi anti-casseurs, mais une cinquantaine de députés de la majorité n'ont pas voté le texte qui menacerait à leurs yeux les libertés publiques. Un scrutin suivi pour nous par Stéphane Robert. Mediapart publie un nouvel enregistrement d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase. Les deux hommes semblent évoquer des destructions de preuves. Les explications à suivre de Maxime Fayol. Donald Trump devant le Congrès la nuit prochaine pour son traditionnel discours sur l'état de l'Union. Le président américain pourrait adopter un ton rassembleur après le bras de fer budgétaire avec les démocrates. Nous serons en ligne avec Gregory Phillips à Washington. Theresa May en Irlande du Nord pour rassurer les républicains et les unionistes sur le Brexit. Mais la première ministre britannique est restée très vague sur ses intentions. Antoine Gignot est notre envoyé spécial à Belfast. C'est une journée capitale pour tous ceux qui, à gauche, rêvent d'une convergence des luttes avec les gilets jaunes. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui dans toute la France. Journée nationale d'action à l'appel de la CGT, de Solidaires et de la gauche radicale pour les salaires et la justice fiscale. Le gilet jaune, Éric Drouet, figure controversée du mouvement, avait apporté son soutien. Annabelle Grelier, vous avez suivi le cortège parisien qui a rassemblé 30 000 personnes selon la CGT, 14 000 d'après le cabinet indépendant. Pendant occurrence, je crois qu'on écoutera votre reportage un peu plus tard, mais on va s'intéresser à la grève des enseignants qui a rassemblé 5% de grévistes d'après le ministère de l'Éducation nationale. Mais en Seine-Saint-Denis, le mouvement semble avoir été davantage suivi, avec un enseignant sur quatre en grève dans le primaire d'après le syndicat majoritaire SNUIPP. Au cœur des revendications, le manque de moyens, notamment dans le dédoublement des classes de CP, l'une des réformes majeures du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Rachel Schneider et la déléguée départementale du SNUIPP en Seine-Saint-Denis.
L'affichage du ministre, c'est qu'on passe au CE1 en REP pour la mesure dédoublement CP-CE1. En réalité, en Seine-Saint-Denis, on doit être à 50% de réussite. On va appeler le dispositif comme ça maintenant chez nous, puisqu'il n'y a pas suffisamment de postes pour tenir la promesse du ministre. Alors bien sûr, il y a des soucis de locaux. Mais tout ne s'explique pas par les locaux, puisque les collègues étaient prêts à fonctionner avec plus d'enseignants dans l'école, à s'organiser autrement, même malgré les problèmes de locaux. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce que ça révèle, c'est qu'on ne peut pas avoir une mesure sans décider d'un réel investissement.
Et concrètement, aujourd'hui, ça se fait au détriment des élèves, alors.
Il y a des écoles où ça se met quand même en place, mais globalement, on est très très loin de l'affichage du ministre. Et surtout, cette mesure-là, elle attire tous les projecteurs, on va dire, et pendant ce temps, on ne parle pas du RASED, le réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté qui est vraiment dans un piteux état. On ne parle pas des postes de formateurs qui ne sont pas créés, alors que 40% des enseignants en Seine-Saint-Denis ont moins de 5 ans d'ancienneté. La formation, ça devrait être une priorité. On ne parle pas de tous les autres postes dont nous avons besoin.
Rachel Schneider du SNUIPP 93, elle répondait à Hakim Kasmir. Revenons à présent sur la manifestation parisienne de la CGT et des Gilets jaunes. Je vous le disais, 30 000 manifestants selon la CGT, 14 000 d'après le cabinet indépendant Occurrence. Une manifestation suivie pour nous par Annabelle Grelier.
Ils sont là ! Ils sont là ! Ils sont là, les gilets jaunes !
Des gilets jaunes derrière la bannière de la CGT, normal pour Guillaume.
Problème, ils ont fait appel, on était là. Parce que, tout simplement, pour nos droits, pour tout, pour l'avenir, pour tout le monde. Tout le monde en a marre maintenant, il est temps que ça se termine. Là, 2 mois de bataille, un peu fatigué, mais on est toujours là.
Gilet jaune de la première heure, il tient un rond-point à Troyes depuis le 17 novembre. Les gilets jaunes qui chantent les slogans de la CGT, l'heure est en effet à la convergence des luttes.
Pour moi, tout le monde devrait être là dans la rue, tous unis, quoi, tous, CGT, CFDT, même s'ils ne sont pas là, ce qui est vraiment dommage. De tous qu'on soit unis. De toute façon, tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est à nous diviser. Et tant qu'on sera divisé, on n'y arrivera pas.
La convergence des luttes avec les Gilets jaunes, ce n'est pas Hervé, militant à la CGT depuis 20 ans, qui dira le contraire.
Oui, bien sûr, tout à fait. De toute façon, la colère est légitime. On est sur les mêmes mots d'ordre d'injustice sociale, injustice fiscale, pouvoir d'achat catastrophique. Donc, à partir du moment où on a des intérêts communs, Voilà, c'est une guerre de classe que mène le gouvernement. Donc, logiquement, la convergence doit se faire.
Lutte de classe, pas forcément. Lohan se sent solidaire de tous les gilets jaunes.
Je suis cadre dans le secteur privé. Je gagne très bien ma vie, donc c'est pas pour mon pouvoir d'achat personnel que je manifeste. Mais je trouve ça inadmissible d'avoir des personnes dans mes équipes qui travaillent 35 heures, voire des fois 40, et qui n'ont pas de quoi joindre les deux bouts.
Et pas de problème non plus pour défiler avec la CGT, même s'il est plus gilet jaune que syndicaliste.
Non, pas du tout. Je ne suis pas syndicaliste, mais étant donné que la CGT a annoncé que pour les dernières manifs, elle viendrait marcher avec les gilets jaunes, je trouve ça normal de venir manifester avec la CGT. Après tout, on partage une bonne partie de nos revendications. Après, c'est juste le moyen de s'entendre. Le truc, c'est que encore une fois, les gilets jaunes veulent juste que ça avance sans qu'il y ait de noyautage, sans qu'il y ait de leader, juste tout simplement que le peuple ait ses revendications telles quelles.
Devant le succès, la CGT enfonce le clou et appelle à une nouvelle journée nationale à la mi-mars.
Le reportage d'Annabelle Grelier, quelques chiffres de la mobilisation en région selon la police. 5200 manifestants à Marseille, 4300 à Lyon, 2500 à Caen, 2300 à Clermont-Ferrand et Lille et 2200 au Havre. Les manifestations d'aujourd'hui se sont globalement déroulées dans le calme, même si l'on signale ça et là quelques tensions avec les forces de l'ordre dans le cortège parisien. Et c'est pour éviter les violences qui ont émaillé les rassemblements des gilets jaunes que l'Assemblée vient de voter la loi anti-casseurs. Le texte prévoit notamment des interdictions préalables de manifester pour les individus présentés comme étant à risque. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Stanislas.
Cette loi anti-casseurs a été adoptée par 387 voix contre 92 et l'analyse du scrutin montre que plusieurs dizaines de députés de la majorité n'ont pas voté le texte.
Oui, une cinquantaine de députés de la majorité se sont abstenus sur ce texte. Pour l'expliquer, il faut reprendre les choses en détail. C'est une disposition du texte, en particulier l'article 2, qui a exacerbé les tensions, à savoir l'interdiction de manifester accordée au préfet sur la base du soupçon qu'un individu pourrait se livrer à des violences. La gauche d'abord était farouchement contre, à l'image du député La France Insoumise Alexis Corbière.
Cette loi est une loi scélérate.
Et dans un style un peu moins théâtral, les communistes ou encore les socialistes derrière Marietta Caramanli.
Une telle disposition fait basculer cette loi dans le champ des textes qui ne sont pas des textes de justice, mais un dispositif de police. Notre groupe va voter contre ce texte et j'appelle à votre conscience et à votre amour pour la liberté.
Si la gauche était contre, c'est parce que cette loi a été empruntée à la droite, plus précisément au président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Une loi que ne pouvaient décemment pas refuser de voter les députés Les Républicains à l'Assemblée, à l'image de leur porte-parole Éric Ciotti.
Le texte qui nous est soumis marque un progrès. Surtout, l'interdiction administrative de manifester. Le groupe des Républicains votera dans son immense majorité cette proposition de loi des sénateurs républicains. Merci mes chers collègues.
Dès lors, c'est au sein de la majorité, La République En Marche, qu'un problème s'est posé. Au terme de débats houleux, certains amendements ont été ajoutés pour encadrer cette disposition. Ce qui, au bout du compte, a permis à Jean-François Eliaou, au nom du groupe En Marche, d'appeler à voter pour.
Le travail que nous, députés, avons réalisé avec le gouvernement aboutit à un texte utile et nécessaire pour atteindre l'objectif que nous nous sommes tous fixés, à savoir préserver le droit de manifester, d'aller et venir et lutter contre la violence.
Mais parmi ceux qui ont voté pour, un certain nombre de députés La République En Marche avouent, en coulisses, l'avoir fait du bout des doigts avec réticence. Et puis surtout, ils sont une cinquantaine à s'être abstenus afin de montrer leur désaccord. Ce ne sont pas des frondeurs, il n'y a pas de frondeurs à l'Assemblée, comme sous François Hollande, susceptibles de voter contre. Mais ils sont un certain nombre à considérer que cette loi est moins une nécessité qu'une manœuvre politique destinée à draguer les électeurs de droite à quelques mois des élections européennes.
Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture, merci. Le dossier d'Alexandre Benalla s'est encore alourdi aujourd'hui avec de nouvelles révélations de Mediapart. Le site d'information publie un enregistrement, le 7e, où l'on entend l'ancien conseiller de l'Élysée discuter avec son acolyte Vincent Crase. Mediapart a transmis tous ces enregistrements au juge chargé de l'enquête sur les agissements des deux hommes le 1er mai dernier. En revanche, le site s'est opposé hier à la perquisition de ses locaux parisiens. Bonsoir Maxime Fayolle.
Bonsoir.
Que dit ce nouvel enregistrement du duo Alexandre Benalla-Vincent Crase?
Eh bien, il confirme les mensonges des deux hommes devant les commissions parlementaires. L'enregistrement permet déjà d'être sûr de la date de la rencontre entre les deux hommes, le 26 juillet. Alors pourquoi en est-on sûr? Car Alexandre Benalla et Vincent Crase regardent l'audition devant la commission des lois d'Alain Giblin, le directeur de l'ordre public à la mairie de Paris, après les faits du 1er mai. On l'entend très clairement derrière leur voix. Et c'est fondamental car à cette date, Benalla et Crase ne doivent pas se rencontrer. Leur contrôle judiciaire l'interdit. En fait, les deux hommes ont plutôt pour habitude de correspondre par mail, selon Mediapart. Ils se connectent à une boîte fantôme et ils s'écrivent des brouillons qu'ils suppriment à chaque fois. Supprimer des traces, c'est d'ailleurs un impératif pour Alexandre Benalla qui va s'en enquérir auprès de Vincent Crase, notamment en ce qui concerne le contrat avec l'oligarque russe Marmoudov pour la société Mars via son sous-traitant Velours.
Tout ce qui concerne Bien sûr. Chez les flics, ils n'ont pas pu regarder mon téléphone parce que je l'éteignais et je le rallumais à chaque fois.
Vincent Crase a donc supprimé toutes les preuves de lien avec Velours, des données qui pourraient potentiellement intéresser les enquêteurs et qui posent question sur le plan judiciaire. À quel degré Alexandre Benalla est-il impliqué dans la signature de ce contrat avec Marmoudov, lui qui dit n'avoir pas contribué à la négociation? Et sur le plan politique, pourquoi un collaborateur de l'Elysée, habilité secret défense, est-il au cœur d'un contrat privé avec un proche de Vladimir Poutine? Et surtout la plus importante, l'Elysée et le président étaient-ils au courant? À ces questions, toujours aucune réponse.
Maxime Fayol, merci. C'est l'incendie le plus meurtrier survenu à Paris depuis 2005. Au moins 10 personnes ont trouvé la mort la nuit dernière dans le feu qui a ravagé un immeuble de la rue Erlanger dans le 16e arrondissement. Il y a 37 blessés, dont 8 pompiers, et il s'agit d'un bilan provisoire. L'origine criminelle de l'incendie ne fait guère de doute pour les enquêteurs. Une occupante de l'immeuble qui s'était disputée avec un voisin a été placée en garde à vue. Les précisions de Stéphane Père.
À l'origine de cet incendie meurtrier, une femme de 40 ans, connue pour des troubles psychiatriques et qui aurait déjà séjourné dans un établissement spécialisé. Cette nuit, elle est interpellée en état d'ébriété vers 1h du matin, alors qu'elle tente de mettre le feu à une poubelle en bas de son immeuble. Le bâtiment est déjà en flammes. Quelques minutes plus tôt, cette femme qui habite au deuxième étage a mis le feu à plusieurs endroits de son propre immeuble. Des traces de produits inflammables ont été relevées par les enquêteurs. C'est une querelle avec un autre voisin, raconte des témoins, un conflit pour une question de tapage nocturne qui serait à l'origine de son acte. Cette femme est connue de la justice pour des faits mineurs, de dégradation, de violence, mais aussi de conflits de voisinage répétés. Elle est en garde à vue dans les locaux du 1er district de police judiciaire et les constatations, le travail des experts continue dans les ruines de l'immeuble pour reconstituer la chronologie des faits.
Stéphane Père, merci. On apprend ce soir que la garde à vue de cette femme soupçonnée d'être à l'origine de l'incendie, eh bien cette garde à vue a été levée. Cette femme d'une quarantaine d'années a été admise à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Donald Trump prononcera enfin la nuit prochaine le traditionnel discours sur l'état de l'Union devant le Congrès. Le président américain a plusieurs fois reporté l'exercice en raison du shutdown, le bras de fer budgétaire qu'il a opposé aux démocrates. La crise est momentanément réglée et Donald Trump pourrait chercher ce soir à apaiser les tensions politiques aux États-Unis. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir.
En direct de Washington, Grégory, la Maison-Blanche annonce un discours plutôt rassembleur du président américain.
Oui, c'est en tout cas ce qu'elle laisse entendre en faisant fuiter quelques extraits de ce discours dans lequel Donald Trump devrait appeler le Congrès à mettre fin à des décennies de blocage, à guérir les blessures anciennes et aussi à trouver des compromis. Il appelle donc à l'unité alors que l'Amérique est divisée. Vous savez que maintenant le Sénat est républicain tandis que la Chambre des représentants est désormais à majorité démocrate. Et puis on sort à peine, vous l'avez dit, de ce shutdown, de cette paralysie partielle des administrations qui a duré 35 jours sans que ça ait servi à quoi que ce soit, puisque dès le 15 février, l'Amérique pourrait se retrouver de nouveau bloqué si la Maison-Blanche et les démocrates ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le projet de mur que Trump veut bâtir. L'immigration illégale et la sécurité à la frontière sud devraient d'ailleurs sans doute être une part importante du discours de ce soir.
Grégory, plusieurs centaines de personnes seront au Capitole pour assister à ce discours sur l'état de l'Union et cette liste d'invités est toujours très significative.
Oui, c'est très important parce que la composition du public invité au Capitole donne un peu la tonalité de la soirée. Alors le président et la première dame ont convié par exemple la famille d'un couple du Nevada, deux personnes assassinées en janvier par un immigrant entré illégalement sur le sol américain, ou plus anecdotique peut-être, un jeune garçon du Delaware âgé de 11 ans. Il s'appelle Joshua Trump. Il n'a rien à voir avec la famille du président, mais il est harcelé au collège à cause de son nom de famille. Et puis les parlementaires aussi ont droit à un invité chacun, et les démocrates démocrates, en guise de message au président, ont convié un militaire transgenre, plusieurs sans-papiers mexicains, des fonctionnaires qui ont été privés de salaire pendant le shutdown. Enfin, vous savez que la tradition veut qu'un membre de l'opposition réponde au discours du président. Et là, les démocrates ont choisi Stacey Abrams, qui est l'une des figures montantes du parti. On l'avait remarqué lors des élections de mi-mandat, où elle avait bien failli, à quelques voix près, devenir en Géorgie la première femme noire gouverneure d'un État américain.
Grégory Phillips en direct de Washington, merci. Theresa May sera à Bruxelles demain pour rencontrer le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. La première ministre britannique essaye désespérément de renégocier certains points de l'accord sur le Brexit conclu avec Bruxelles, mais rejeté par le Parlement à Londres. La question de la frontière irlandaise est au cœur de cette renégociation. Et justement, Theresa May était en Irlande du Nord aujourd'hui pour tenter de rassurer à la fois les républicains et les unionistes irlandais. On retrouve à Belfast notre envoyé spécial Antoine Gignot. Bonsoir.
Bonsoir.
Antoine, en voulant rassurer tout le monde, Theresa May est restée bien vague sur sa position quant à la frontière irlandaise post-Brexit.
Absolument, elle a pourtant fait preuve de beaucoup de résolution dans ses propos, Theresa May. J'avais 12 ans lorsque les troubles ont commencé, 41 ans lorsque les accords de paix de Belfast ont été signés, a dit la première ministre. Ça m'a marqué, c'est un jalon dans ma vie d'adulte, explique Theresa May. Elle affirme ensuite qu'elle a rencontré beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'élus locaux. Elle cherche à rassurer.
Je comprends ce que retour d'une frontière physique signifierait en termes de commerce pour l'ensemble de l'île. Lorsque l'Union européenne a cherché à mettre en place un dispositif avec une frontière maritime, j'ai refusé et je continuerai de le faire. Ça porterait atteinte à l'intégrité du marché intérieur britannique et ce serait une manière d'ignorer les inquiétudes de beaucoup de gens qui ont peur d'être coupés du reste du Royaume-Uni. Nous allons trouver une manière de sortir de l'Union européenne qui soit conforme aux engagements que nous avons pris vis-à-vis de l'Irlande du Nord.
Pourtant, aucune annonce, aucun indice sur les solutions qui peuvent être mises en place. Le porte-parole du 10 Downing Street laisse entendre que Theresa May fera des propositions concrètes jeudi face à Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne à Bruxelles. Elle pourrait notamment évoquer la possibilité de faire des contrôles de marchandises grâce à un système d'enregistrement informatique. Mais ce soir, la première ministre se borne à répéter qu'il est nécessaire de travailler ensemble. Et la seule proposition qu'elle formule, c'est une candidature commune du Royaume-Uni et de la République d'Irlande pour l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2030.
Antoine Gignot en direct de Belfast, merci. Alexis Tsipras est en Turquie aujourd'hui. Le Premier ministre grec entame une visite officielle de 2 jours dans un climat difficile. Beaucoup de sujets divisent les deux pays, la crise migratoire bien sûr, mais aussi la répression menée par le président turc Erdogan après le putsch raté de 2016. Les enjeux de cette visite avec notre correspondante à Athènes, Angélique Kourounis.
C'est la 4e visite d'Alexis Tsipras en Turquie, mais c'est la première depuis la venue en Grèce du président turc il y a 1 an, qui avait failli finir en incident diplomatique lorsque Recep Tayyip Erdogan avait remis en cause en présence des autorités grecques le traité de Lausanne qui régit depuis 1923 les relations entre les deux pays. Depuis les violations de l'espace aérien grec par la Turquie, qui ne reconnaît pas la souveraineté grecque sur la mer Égée, ont augmenté de 10%, celles des vols rapprochés au-dessus des îles grecques de 20%. Aussi, aujourd'hui, Alexis Tsipras veut convaincre le président turc que les problèmes entre Athènes et Ankara sont en fait des problèmes purement turco-européens qu'il faut résoudre. Tout comme la question migratoire ou celle des recherches gazières au large de l'île de Chypre, qu'Ankara empêche force militaire à l'appui, même lorsque ces recherches sont menées par des bateaux italiens. La Grèce redoute que la crise économique qui pointe chez sa voisine ne pousse les autorités turques à une surenchère nationaliste qui peut vite dégénérer, comme en 1996, où les deux pays membres pourtant de l'OTAN ont frôlé l'affrontement militaire. L'exercice sera difficile, Recep Tayyip Erdogan réclamant sans succès depuis des mois l'extradition des 8 militaires turcs qui ont obtenu l'asile politique en Grèce. De plus, le président turc voit d'un très mauvais œil l'accueil par Athènes des milliers de Turcs qui passent la frontière pour demander protection. Alexis Tsipras va demander la mise en place de mécanismes visant à éviter l'escalade, mais ce n'est pas gagné. Le porte-parole du président turc ayant annoncé hier qu'il faudra aussi discuter du statut des îles grecques, provoquant une grosse émotion et colère en Grèce.
Angélique Kourounis, correspondante en Grèce. Selon l'AFP, citant une source au sein du gouvernement français, Bruxelles pourrait interdire demain la fusion entre entre l'allemand Siemens et le français Alstom, un projet défendu par Paris et Berlin pour contrer l'ascension de la Chine dans la construction ferroviaire. La Commission européenne redouterait un quasi-monopole du groupe Alstom-Siemens sur le marché européen du rail. L'exécutif européen ne confirme pas l'information ce soir. Retour en France avec la météo demain. Temps perturbé et pluvieux sur le nord-ouest et plus ensoleillé sur l'est. Les pluies seront soutenues sur la Bretagne et les côtes de la Manche. Température minimale de moins 4 à 9 degrés du nord-est au sud. Les maximales iront de 7 à 18 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.